Vous écoutez France Culture.
Bonjour et bienvenue dans vos Une vie, une œuvre de l'été. Aujourd'hui, troisième épisode de notre thématique polar avec l'écrivain anglais Graham Greene, 1904-1991. Graham Greene a été agent secret, mais jusqu'à quand et surtout qu'a-t-il fait au sein des services secrets? Tout cela est encore aujourd'hui assez flou, comme il demeure difficile de comprendre ce sentiment qu'il a ressenti très tôt de la loyauté impossible, et comme reste mystérieux le rapport à la religion de ce catholique qui concédait lui-même vivre largement dans le péché. C'est tout cela que nous allons tenter d'éclaircir aujourd'hui en allant chercher des réponses autant dans sa vie que dans ses romans, notamment La puissance et la gloire, Le facteur humain, Le troisième homme, ou bien encore le célèbre Un Américain bien tranquille. Il est grand, le mystère de Graham Greene, c'est une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Gilles Davidas et diffusée une première fois, c'était le 3 avril 2008.
Marie-Jo, tu viens prendre ton café?
Il parlait pas vite, il réfléchissait à ce qu'il disait.
Dieu n'a pas été très sérieux quand il a donné à l'homme l'instinct sexuel.
N'importe quoi plutôt que la terreur monotone de la routine.
Et il est toujours un peu sur ses gardes. Enfin moi quand je l'ai vu, quoi, je l'ai vu peut-être une dizaine de fois, un peu plus peut-être, je sais pas. Et deux fois officiellement pour faire une interview. Merci, voilà, là. La femme de mon existence. Sans elle, je ne peux rien.
C'est ça.
Merci.
Eh oui, c'est pas moi, ça sera un autre.
Oui, c'est ça. Je vous sers, hein. J'ai plus de lait.
Alors, Marie-Françoise Alain, vous avez ici quelques photos où on voit Graham Greene. C'est des photos personnelles?
Bah oui. Oui, bien sûr. Enfin, personnel, tout est personnel ici.
C'est-à-dire que c'est vous qui les avez prises
Alors, non. Ça, c'est pris par lors de la deuxième série d'entretiens. Parce que je l'avais déjà rencontré plusieurs fois à Antibes, hein. Mais c'est pris devant son appartement du boulevard Malesherbes, et c'est pris par un photographe brésilien qui s'appelle Carlos Freire, qui ne connaissait pas Graham Greene et qui voulait beaucoup le rencontrer, donc il m'a donné cette photo.
Donc c'est vous, lui, un petit chien des valises,
et
en train de discuter.
C'est épouvantable, j'ai l'air d'une clocharde, comme d'habitude, mais...
Et les autres photos?
Alors, j'en ai très peu, hein, en fait, parce que ça, c'est la deuxième... Alors, j'en avais prêté. Moi, je suis un peu bête, hein, vous savez. J'ai très confiance et je prête. Et j'avais une très belle photo de nos entretiens chez lui dans le boulevard Malesherbes. Et je l'ai prêtée. Je ne dirai pas à qui, parce que j'espère qu'ils m'entendront, qu'ils me la restitueront, pour une exposition qui avait eu lieu pour la sortie de mon bouquin, justement, L'autre et son double. Et je ne l'ai jamais récupérée.
Donc vous avez la photocopie seulement?
J'ai seulement la photocopie. Mais en fait, c'est pas très grave. Et là, j'ai des photos de lui. J'avais commencé à vouloir faire des photos. Donc j'ai une photo de lui à un moment de la sortie du Capitaine et l'Ennemi. Il devait être avec Robert Laffont, mais comme je suis assez nulle. Et vous voyez, il a l'air très gentil. Voilà.
Comment vous pouvez le décrire?
Oh là, elle est tendre, cette photo. Ben, je sais pas, c'est... Mais alors, moi, quand je le regarde, là, si je le regarde bien... C'était un homme, et qui, moi, il me terrorisait, hein. Il terrorisait la plupart des gens, et on était devant lui, on était comme ça, hein. Et j'avais beau savoir quelle gentillesse et quel trésor d'amitié et de fidélité il a déployé au cours de toutes ces années, parce que moi je le connais depuis quand même, je l'ai sans doute vu dès les années 59, je ne sais pas si vous vous imaginez. Et alors là, il a, à votre avis, c'est quoi cette expression? C'est une expression de quoi?
Bon, on dirait qu'il s'apprête à dire quelque chose,
non? Oui, mais il a l'air gentil, amusé, non? Plutôt souriant. Oui, c'est ça. Alors, il m'a dit, moi, je n'ai que deux visages. Celui de l'amusement ou de l'ennui. Boredom or amusement. C'est ce qu'on me dit. Parce que je lui avais dit que Paul Theroux, que j'avais rencontré, qui est un de ses admirateurs et qui l'a aidé, parce qu'il a aidé beaucoup d'écrivains. Paul Theroux lui avait dit qu'il avait une tête d'archevêque ou de meurtrier. Alors il me dit, ah bah bon, on m'a toujours dit que j'avais que deux visages, celui de boredom or amusement. Et moi j'étais en train de lui dire, mais vous changez de visage constamment. Alors là, ça correspond peut-être à un début d'amusement.
C'était pas fréquent, c'était le moins fréquent?
Écoutez, ça dépend, je pense que ça devait dépendre des circonstances. Parce que quand je l'ai eu en face de moi pendant tous ces mois, oh là là, c'était tellement l'angoisse. Et deux angoissés, c'est encore pire, vous voyez.
L'angoisse de quoi?
De tout. De tout. Existentiel, qui vous colle à la peau, je sais pas.
C'est quelqu'un dont l'écriture est très limpide.
Robert Louis.
Ce qui ne veut pas dire simple, hein. Rien n'est plus trompeur, évidemment. Mais enfin, disons, ça n'est pas Joyce. C'est quelqu'un qui écrit vraiment une langue faite pour être comprise immédiatement. Évidemment, ça s'explique aussi par le fait qu'il a divisé son œuvre d'une façon qui ne résiste pas d'ailleurs à l'analyse, entre ce qu'il appelait ses divertissements, qui sont les romans policiers, les romans d'espionnage, Tueur à gages, Ministère de la peur, etc., et ses romans de fond, davantage comme le fond du problème, précisément. Distinction artificielle, parce qu'il y a autant de Green dans ses divertissements que dans ses romans plus ambitieux. Et aujourd'hui, on peut même penser que des romans comme Tueur à gages ou Ministère de la peur tiennent mieux la route que le fond du problème.
Parce que, comme un miracle, d'ailleurs, c'est que les personnages y surgissent de quelque part des profondeurs. Et parce qu'en fait, il a cette faculté d'oublier le conscient. Et donc, du coup, il l'explique très bien, d'ailleurs. Ça permet à l'inconscient de ressurgir. Et c'est peut-être comme cela que la grâce de l'écriture arrive. Je suis très émue de parler de lui, excusez-moi, mais vraiment, je trouve ça tellement beau.
Vous voulez qu'on s'arrête un peu ?
Non, non, c'est lui aussi pleurait, vous savez. Donc, c'est vrai que je trouve c'est un... Quand les choses sont très belles, parfois je pleure, excusez-moi, vous couperez. Mais j'ai relu, j'y pense parce que j'ai relu pour vous La puissance et la gloire hier soir. Et franchement, ça m'a fait pleurer. De même que j'ai relu, on pleure beaucoup dans les Chaumières, j'ai relu la fin du Facteur humain, mais il y a de quoi pleurer.
Dans le contexte de la littérature anglaise de la première moitié du XXe siècle, Graham Greene est, pendant un certain temps, le seul à sortir d'un certain provincialisme de cette littérature, une littérature tasse de thé un petit peu, ou alors d'une littérature analysant les classes en Angleterre, mais dans un contexte très limité. Pour lui, le roman et les récits de voyage, puisqu'il a d'abord été un écrivain voyageur également, un travel writer. Mais pour lui, très vite, il s'agit d'ouvrir des fenêtres sur le monde, et sur le monde entier. Donc tout de suite, il voyage, tout de suite, il va en Afrique, il en tire des livres, il veut sortir de cette espèce de provincialisme.
Aussi parce qu'il a beaucoup souffert du provincialisme de Berkhamsted.
Oui, je pense, c'est un contexte dont il a voulu sortir au plus vite. Et c'est sans doute lié à la monotonie et à l'ennui. Il fallait absolument échapper à ça. Pour lui, c'était vital, sinon sa vie ne valait rien, quoi. This was meant to be love's uncanny, love's true. Oh, why did love pick out you for me? For me, for me, for me.
You must have been one of the first people.
Vous êtes l'une des premières personnes à avoir suivi une psychanalyse.
Well, hard the first. It began at the end of the 19th century.
Disons pas vraiment le premier, mais dans les premiers. J'ai fait cette psychanalyse dans les années 20. J'étais peut-être parmi les premiers dans ce pays. J'avais atteint une crise émotionnelle et je ne supportais plus l'étrange vie divisée que je subissais à l'école. Et donc j'ai fui. Et j'ai eu ma victoire. J'ai quitté l'école pendant environ 7 mois pour aller à Londres, vivre chez mon psychanalyste, et c'était l'une des périodes les plus heureuses de ma vie.
Vous dites, Marie-Françoise Alain, qu'il s'ennuyait. D'ailleurs, il l'a dit aussi beaucoup, que l'ennui était quelque chose qui l'a tenaillé depuis son adolescence. Qu'est-ce que c'était que cet ennui exactement ?
C'est très bizarre, ça paraît très physique. Il disait, j'avais l'impression que ma tête enflait comme un ballon. Et donc, pour se libérer de cette sensation épouvantable, qu'il a quand même réussi à décrire comme étant de l'ennui, c'est déjà pas mal, je trouve, eh ben, il faisait n'importe quoi. Il se taillait d'un genou, ou il se faisait arracher il allait se faire arracher une dent. Ou il
une dent
saine. Une dent saine, en plus.
Ah oui,
ce qui est incroyable. Ou alors, il jouait à la roulette russe. Il était capable de piquer des colères épouvantables.
Vous dites qu'il avait des accidents de tempérament. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Alors, il avait été maniaco-dépressif, étant jeune, et peut-être qu'il passait d'un extrême à l'autre. C'était donc ça, il y a beaucoup à dire là-dessus, sur la roulette russe, sur c'était hallucinant, quoi. C'est ce qu'il a fait est hallucinant. À l'âge de 16 ans, jouer souvent à la roulette russe jusqu'au jour où c'est devenu ennuyeux pour lui. Mais c'était pour échapper à l'ennui. Donc, évidemment, pour échapper à l'ennui, il s'infusait des taux d'adrénaline, il se faisait monter son adrénaline en faisant ça, comme ça. Mais il pouvait passer aussi d'un extrême, extrême excitation à une dépression, je suppose. Donc, moi, je l'ai plutôt vu dans une phase calme, puisqu'il est plus vieux, parce qu'il m'a bien expliqué, je crois que c'est vrai, qu'avec l'âge, il était devenu moins maniaco-dépressif.
Peut-être qu'on peut dire un mot, Robert Louis, sur l'enfance de Graham Greene, l'enfance et l'adolescence de Graham Greene, et notamment ses loyautés divisées, dont on a déjà un peu parlé, mais qui se cristallisent comme ça à cette période de sa vie.
Il était fils d'un directeur d'école dans une ville, Back Hampstead, et donc un petit peu privilégié par rapport aux autres élèves. Il a voulu passer à l'opposé. Il a eu dans son adolescence une fascination pour le suicide. C'est pas rare chez les adolescents, bien sûr. Il a fait une ou deux tentatives. Et puis, comme c'est quelqu'un qui a lu très jeune, qui est devenu intellectuel très jeune, il y a eu ces choix, ces points d'interrogation, en effet, communiste ou catholique. Être catholique dans un pays comme l'Angleterre, qui avait sa propre religion, après tout l'anglicanisme, qui n'existe pas en dehors de l'Angleterre, c'était être contestataire également. Donc on pouvait contester d'un côté ou de l'autre, l'important était de contester.
Presque tous les matins, il écrivait
François Galix
l'histoire du rêve qu'il venait de faire.
J'ai rêvé d'un lépreux, en Suède. Il allait voir un vieux professeur en médecine qui lui fermait la porte au nez, lui conseillant de se faire traiter dans une clinique. Le lépreux implorait son aide, il perdrait son travail si tout le monde connaissait son mal. Le professeur, très sévère, répondait que la législation suédoise ne lui permettait pas de soigner un lépreux hors d'un hôpital. Alors le malheureux revenait dans la nuit frapper à la porte du Herr Professor. Et subitement, tout était différent. Un officier s'était présenté dans la journée et avait dit au médecin « Écoutez, nous offrons une grande fête pour les 70 ans du général qui a pris sa retraite. La loi suédoise interdit le jeu. Aussi voudrions-nous transformer votre maison en casino juste pour la nuit. » Le professeur avait fini par donner son accord. Aussi, lorsque le lépreux se traîna à travers champs cette nuit-là pour voir le professeur et lui supplier de le soigner en secret, la maison entière était-elle métamorphosée, des lumières, des rires, la fumée des cigares. Et alors, tandis qu'on faisait sauter gaiement le bouchon d'une bouteille de champagne, le lépreux se tira une balle de revolver dans la tempe. Et je me suis demandé, méditant sur ce rêve d'un pays étrange, suis-je le professeur ou suis-je le lépreux? Un peu les deux, je pense.
Alors ça vient de très loin, cette façon autobiographique. Ça vient de l'époque où lui-même avait des problèmes de dépression. Hein, il avait à peu près 17-18 ans, et où ses parents donc avaient fait le choix de lui faire voir un psychanalyste.
Ce qui se faisait très peu à l'époque.
Ce qui se faisait très peu, oui, tout à fait. Alors, ce psychanalyste a eu l'idée extraordinaire de dire à ce jeune adolescent, voilà, ben écoutez, c'est pas grave, et voilà, ben tout ce que je vais vous recommander de faire, c'est d'écrire. Et donc le jeune Greene dit, bah oui, enfin écrire, hein, il n'avait encore vraiment rien écrit. Et il lui a dit, bah, je vous conseille de noter vos rêves pratiquement tous les jours. Et alors ce qui est curieux, c'est que Greene ait continué à faire ça tout le temps. Alors, un certain nombre de ces carnets, de ces rêves, ont été choisis par Greene et ont été publiés. D'autres ont été aussi commentés, si vous voulez, mais pas la totalité.
Moi, je l'ai vu dans ses appartements.
Olivier Todd.
Qui n'était pas gay, qui était même un petit peu sordide, là, boulevard Malesherbes. Oh, sordide, c'est un grand mot, mais très dépouillé. Et puis, alors, à Antibes, alors c'était très surprenant, cet homme qui était très aisé, vivait dans deux ou trois pièces, qui donnait sur le port, où il y avait un boucan infernal, mais il travaillait là. On n'aurait jamais cru qu'on était chez un auteur mondialement connu. En revanche, il a vécu dans des locaux très spacieux, près de Piccadilly, près de St. James Street, dans Albany, où les gens riches avaient des suites. Alors, il était d'un côté un explorateur du sordide, mais il vivait assez bien. Enfin, je me suis souvent demandé s'il ne faisait pas exprès d'avoir des appartements dans lesquels ses héros auraient pu vivre.
Mais qu'est-ce qu'il préférait ? Il préférait Londres, Piccadilly Circus ? Il préférait Antibes ? Il préférait les suburbs de Londres ?
Non, écoutez, je crois que ça, c'est une question de moment. Enfin, et puis à Londres, ce qu'il aimait, enfin, il s'en est pas caché, enfin, c'était Soho. Les prostituées qui n'étaient pas très loin de cet appartement très très élégant d'Albany. J'ai pas vu l'appartement, moi, mais je sais comment c'était parce que j'ai vu d'autres personnes, hein. Et puis après, ce qu'il a préféré, à la fin de sa vie, il a visiblement préféré Antibes et la Suisse. Mais c'était quand même un intermittent du posez-moi là.
Il avait un pied-à-terre à Londres, un pied-à-terre à Paris, un autre à Antibes, où, dans les dernières années, à l'époque où je l'ai connu, il séjournait le plus souvent quand il n'était pas en voyage. Or, il a voyagé dans le monde jusqu'à ce que, vraiment, physiquement, il ne puisse plus. Et enfin, une maison à Capri. Et dans cette maison à Capri, il y aurait eu des histoires avec des jeunes garçons. Bon, Michael Sheldon a sa version, Norman Shea la sienne. Y a-t-il quelque chose ou non ? Est-ce bien intéressant, d'ailleurs ? Bon, voilà, la question reste ouverte. Ça n'explique rien chez Green. En tout cas, chez Green, l'écrivain. Or, c'est lui qui nous intéresse. L'homme, il avait ses contradictions, comme tout le monde. Et il est très possible que ses aventures homosexuelles sur le tard aient été réelles. C'est se fixer des règles et les enfreindre. Sexuellement aussi, dans le fond.
Il se promenait toujours avec un ours en peluche.
Oui. Ça, c'est une histoire très marrante. Ce grand agent secret, journaliste présent sur tous les fronts de guerre, avait un ours en peluche, nommé Ted, et il le trimballait partout, et un ami à lui, qui était le directeur d'une maison d'édition anglaise, avait la même passion, et lui aussi avait un ours, il s'appelait Ted, et il se donnait des nouvelles de leur Ted réciproque. Voilà, c'est peut-être la part d'enfance de Green, qui est d'ailleurs quelque chose qui est présent dans son œuvre aussi, hein, dans des courts romans comme Première désillusion, la désillusion, la part d'enfance qu'on doit plus ou moins abandonner, un meurtre que tout le monde commet, que disait le Heimito von Doderer, auteur allemand, le meurtre que tout le monde commet, c'est tuer son enfance, effectivement.
Ils avaient toute liberté l'un et l'autre. Lui, il partait pour ses voyages, il revenait parce qu'elle lui manquait trop. J'ai lu ses lettres. Normalement, je ne devrais pas le dire, mais j'ai lu ses lettres à Yvonne. Elles sont très belles, très douces, très, très passionnées aussi, et très amusantes parfois. Et il y a une chose qui revient tout le temps, c'est « j'ai été sage ». Il met le mot « sage ». C'est pour vous dire que c'est un diable. Quand il dit qu'il était sage, je pense qu'il dit vrai. Donc il dit « j'ai été sage, sage, sage », c'est le leitmotiv. Donc ils avaient toute liberté. Mais effectivement, ce qui est très étonnant, c'est que elle n'a pas participé à ces voyages périlleux. Contrairement à Catherine Wollaston, ou à ceux qui auraient pu l'accompagner ailleurs. Quoique, il précise bien que même il aimait voyager seul parce qu'il ne voulait pas être influencé par les opinions des autres journalistes ou d'autres personnes. Donc, et je ne vois pas comment il aurait pu faire les voyages périlleux qu'il a fait, sauf avec sa cousine en Afrique. Mais là, c'est la seule fois, je crois, où il a voyagé avec une femme. Il a failli mourir, d'ailleurs.
Quand nous sommes arrivés à Ziggystown, Graham ne tenait plus sur ses pieds. Il titubait comme un homme un peu ivre. Les porteurs ne lui laissaient pas un instant de répit tant qu'il restait debout, car ils venaient, selon leur habitude, lui soumettre tous leurs problèmes. J'arrivais à persuader Graham d'aller se coucher. Je pris sa température, qui était fort élevée. Je lui versai une bonne dose de whisky. Je lui donnai des sels d'Epsom et l'enfouis sous plusieurs couvertures, tout en espérant avoir suivi la bonne méthode. Je dînais seul, tandis que le tonnerre grondait. Les boys me servirent avec une mine grave, la même pensée occupait nos esprits. Graham allait mourir. Je n'en doutais pas un seul instant. Il ressemblait déjà à un mort. L'atmosphère électrique me donnait mal à la tête et rendait les hommes irascibles. Je les entendais s'apostropher, mais je laissais faire. Je repris la température de Graham, elle avait encore monté. Je restais assez calme à la pensée de sa mort. Je constatais avec horreur que je n'éprouvais aucune émotion. Je me répétais mentalement qu'en réalité j'étais bouleversée, mais à vrai dire j'avais atteint un tel degré de fatigue que tout en étant capable de concentrer sans peine mon attention sur les mesures à prendre concrètement, je ne parvenais pas à ressentir quoi que ce soit. J'étudiais froidement de quelle manière je ferais enterrer mon cousin. Comment je redescendrais jusqu'à la côte, à qui je ferais envoyer des télégrammes. Le lendemain matin, à mon grand étonnement, Graham n'était pas mort.
Pas à cause de ça, mais...
De maladie.
De maladie, oui. Donc, oui, effectivement. Et puis, par ailleurs, Yvonne... Eh bien, c'est vrai que c'est un personnage mystérieux et qui restera mystérieux. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin'. Where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Green dit à propos de ça, raconte à propos de sa vie ce qu'il veut bien raconter. Il y a une chose, il a toujours dit qu'il n'avait pas de copyright sur la vie des autres. Par exemple, dans le domaine amoureux, c'est pour ça qu'il ne parle pas tellement de ses aventures amoureuses, il y a des choses qui sont restées cachées. À côté de ça, il a quand même une certaine franchise parce que. Catholique ou non, c'était un amateur de bordel. Et quand il allait dans le Cuba de Batista, il raconte très bien comment il a assisté à des live shows et comment il fréquentait les bordels, ce qui ne l'empêchait pas d'être engagé du côté de Castro. Mais voilà, ça fait partie aussi des contradictions du personnage, contradictions jusqu'à un certain point d'ailleurs. De même que quand il va en Indochine, il va dans les fumeries d'opium, il raconte ça de la façon la plus décontractée.
Et ça, il vous en donc, parlait par exemple
ah oui,
il en parlait
facilement sans aucune gêne. Mais bon, là, ça nous amène, je crois, à parler plus profondément de certains de ses choix dans l'existence, comme sa conversion au catholicisme. Personnellement, je suis très sceptique à l'égard de sa vraie foi religieuse. Depuis très jeune, il a dit sous de multiples formes que le grand problème dans l'existence, c'était d'échapper à l'ennui. Il y a même une formulation qui me revient, là, il a dit « n'importe quoi plutôt que la terreur monotone de la routine ». Et très peu de temps avant sa conversion au catholicisme, qui date, si je me rappelle bien, de 1926, il s'était inscrit au Parti communiste. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un mois. Mais enfin, donc, il essayait diverses choses, et je crois qu'il voulait un appareil, une structure mentale à explorer, plutôt que la banalité de l'existence. Et ça a été le catholicisme, mais je le prends avec un point d'interrogation, son catholicisme. Une autre chose qu'il dit, c'est « seuls les catholiques peuvent pécher ». Les autres, ils ne savent pas ce que c'est. Et là, il y a chez lui une fascination pour la transgression, sans aucun doute. Il ne s'en est pas privé.
On parlait à l'instant du catholicisme et du communisme. Finalement, ce qui intéressait Graham Greene, c'était que les gens aient la foi, qu'ils aient une foi communiste ou une foi chrétienne, d'une certaine façon, qu'ils croient en quelque chose.
C'est ce qui l'intéressait vraiment, il est plus vicieux que ça, c'est qu'ils aient la foi, mais qu'ils soient sur le point de perdre la foi. C'est plus terrible que ça. Ce qui le fascinait, c'était le bord vertigineux où la foi vacille.
Est-ce qu'il priait régulièrement?
Je ne sais pas. Je sais qu'il était très impressionné par les gens qui avaient la foi. Par exemple, le père de Leopoldo Duran, il l'adorait, parce que Leopoldo Duran avait la foi, et il disait « je ne crois pas en Dieu, je le touche ». Et ça, Graham aimait énormément les territoires concrets de la foi. Moi, je lui avais demandé « quand est-ce que vous avez senti que vous aviez la foi ?» Parce qu'il a été converti, comme il l'explique, de façon intellectuelle au catholicisme par le père Trollope, mais et par l'intérêt qu'il avait pour ce en quoi croyait sa femme. Mais il n'a ressenti vraiment la beauté, peut-être, j'en parle vraiment, de la foi en allant au Mexique, quand il a vu ces paysans qui restaient des heures à genoux, ou qui faisait le parcours entre le fond de l'église vers l'autel. Enfin, il montre bien que c'est ça qui lui a fait vraiment toucher du doigt la profondeur, l'authenticité de la foi.
La puissance et la gloire,
Armand Goulipian,
a été assez mal accueillie par le clergé. Mais lorsque Green a rencontré le pape, je crois que c'était Pie XII, je ne me souviens plus, le pape lui a dit « mais n'en tenez pas compte, hein, votre livre n'a pas plu à tout le monde, mais... » ça a quand même de la valeur, voilà.
Qu'est-ce qui gênait les milieux catholiques ?
Ah ben, c'était que le prêtre, c'était déjà un alcoolique, le whiskey priest, prêtre qui buvait, et puis c'était un prêtre qui, il était pourchassé, donc il a eu un moment de faiblesse, il a couché avec une femme, il est père d'une petite fille, alors ça amène des tas de regrets, de remords. Ce prêtre est absolument convaincu qu'il est indigne.
Mais le prêtre ne ressentait aucune pitié. Il se mit à jurer contre la bête avec des mots grossiers et populaires qu'il avait ramassés inconsciemment autour des kiosques à musique. En toute autre circonstance, il se fut étonné de les sentir monter si facilement à ses lèvres. Il éclata de rire. Voilà bien la dignité humaine, disputer un os à une chienne. En l'entendant rire, l'animal effrayé, les babines frémissantes, rabattit les oreilles. La vie de cette bête n'avait aucune importance comparée à celle d'un être humain. Il revint vers la chienne et lui donna un léger coup de passoire sur le museau. Sans bouger, elle tenta de la happer entre ses vieilles dents cassées. Il frappa plus fort et elle saisit dans sa gueule l'ustensile qu'il lui arrachait de force. Il la roua de coups avant de se rendre compte qu'elle ne pouvait bouger qu'au prix de grands efforts. Elle ne pouvait ni échapper au coup, ni abandonner l'os. Elle ne pouvait que souffrir.
Alors qu'à la fin, Green le présente presque comme un saint, un martyr. Il est tué pour sa foi. Et il devient une espèce de martyr, de saint, et il meurt à la fin du roman. Oui. Someone broke into my heart and stole a beat or two. The finger of suspicion points at you. Someone took away my sleep and never left a clue. The finger of suspicion points at you. Dans Monseigneur Quichotte, il y a plusieurs confessions qui sont très amusantes. Il est avec Sancho, son compagnon, dans un café, dans un restaurant. Il va aux toilettes et là, il a l'impression que quelqu'un va l'agresser. Et ce quelqu'un, c'est un croque-mort qui veut se confesser dans les toilettes parce qu'il a volé, les poignées en cuivre d'un cercueil. Donc le prêtre lui fait comprendre que ce péché ne mérite même pas l'absolution tellement c'est bénin, c'est bête, voilà. Dans La puissance et la gloire, on a aussi une confession qui c'est pas un livre amusant, mais il y a quand même un petit peu d'humour. Cette confession dans une étable avec... les Mexicains qui viennent en foule raconter tous leurs péchés, et le prêtre dit « mais qu'est-ce que c'est, l'homme n'a pas d'imagination, ses péchés c'est toujours les mêmes, mais c'est pas grand-chose, voyez ». Il reste un cheval dans l'écurie, et ce cheval se met à hennir pendant qu'il entend ses confessions, voyez. Donc j'ai trouvé ce passage assez humoristique, bien que traitant d'un sujet quand même qui inquiète un petit peu, voilà.
Qu'est-ce que c'est les romans humoristiques de Graham Greene ?
Alors, c'est à partir de The Comedians, les comédiens, ou alors tout ce qui avait été problème religieux jusque-là était à peu près négligé. Voyage avec ma tante, qui est un roman où il s'est détendu. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de farces, de surprises, vous voyez. Greene était connu pour ce côté
plaisantin. Il aimait faire des plaisanteries, jouer des tours à ses amis, etc. Donc là, il s'est détendu. Il a écrit, pour s'amuser, un long roman sur un personnage un peu falot qui va être déniaisé par celle qu'il croit être sa tante, mais qui en réalité est sa mère. Voilà.
Et alors, vous dites qu'il s'est détendu. Est-ce que vous savez pourquoi, à ce moment-là de sa vie, il se détend un peu et il se tourne vers des romans qui vont être peut-être plus légers ?
Déjà, il n'aimait pas tellement qu'on le traite de romancier catholique. Il disait, je suis un romancier à qui il arrive d'être catholique, mais je ne suis pas un romancier catholique. Donc, pour lui, la religion, c'était important, mais ce n'était pas quelque chose qu'il fallait mettre trop en valeur dans son œuvre. Et même dans les romans comiques, il y a encore quelque chose qui le rattache à ses préoccupations métaphysiques. C'est très en sourdine, c'est très, très discret, mais ça intervient. Le personnage des comédiens, avait la vocation d'être prêtre, et puis la vie l'a fait bourlinguer, il a fait des tas de choses, et il finit comme employé, il devient croque-mort, quoi, voilà, employé des pompes funèbres à Haïti.
Ça veut dire que l'humour chez Graham Greene, c'est quand même toujours un humour noir ?
Assez souvent, oui, assez souvent, oui. Justement, dans un roman qui est comique, comme « Voyage avec ma tante », cette tante, Augusta, lui dit « Tu vas te retrouver un beau jour devant ce mur, hein, ce mur, le dernier mur fatal, le mur qui évoque la mort. Donc, il faut bien vivre en attendant. Hein. » Voilà. Donc, il y a quand même ce mur que chacun va trouver un jour, le plus tard possible, bien sûr, mais on va tous trouver ce mur. Et Greene en a parlé dans beaucoup de ses romans.
Dernier Top Inter, 13h. Le journal d'Interactualité Magazine, présenté par Roland Mel.
Le plus grand espion de l'histoire de l'Angleterre. C'est ainsi que la presse anglaise juge John Filby, un homme de 55 ans, qui vit maintenant à Moscou, dans, paraît-il, un luxueux appartement.
Et alors après, quand Filby était réfugié en URSS,
Olivier Todd.
Graham Greene l'a beaucoup vu. Il a même préfacé les mémoires de Kim Philby. J'ai demandé à Greene un jour ce qu'il aurait fait s'il avait su que Filby était une taupe soviétique pendant qu'ils étaient tous les deux au sein du service anglais. Et il m'a dit, d'ailleurs, il l'a dit à plusieurs personnes, ça, j'aurais donné 24 heures pour filer. L'amitié avant tout.
Par exemple, sur l'affaire Filby, moi, je l'ai tanné pendant 6 ans, Yvonne.
Yvonne Cloetta a été la dernière compagne de Graham Greene.
Puisqu'on a travaillé 6 ans. Et c'est la veille de sa mort seulement qu'elle m'a avoué, parce qu'il ne faut pas croire qu'elle était plus aussi naïve que ça, elle non plus. Hein. C'est la veille de sa mort qu'elle m'a dit, jusqu'au bout, Graham a travaillé pour les services secrets anglais. Et ça, même Norman Sherry n'a pas réussi, à la veille de la mort de Graham, à dire ce que Yvonne m'a dit.
Son biographe
à la
officiel.
Veille, oui, son biographe officiel. Il l'a tanné, j'ai retrouvé sa lettre là, parce qu'Yvonne me l'a donnée. Il a poursuivi Graham jusque à l'hôpital de Vevey, mais c'était son devoir de biographe, hein, je le comprends, pour lui dire, dites-nous quelque chose sur Filby, Graham, les lettres, est-ce que vous les passiez au Foreign Office, au service secret ou non, les lettres de Filby quand il vous en envoyait. Graham ne lui a jamais répondu. Or, Yvonne m'a dit, mais oui, ces lettres, il les a toutes, et elle me raconte même les circonstances dans le livre, à la recherche, enfin, Ma vie avec Graham Greene. Elle raconte pas toutes les lettres, mais certaines lettres, quand il jugeait que c'était nécessaire.
Alors, est-ce que c'était une trahison vis-à-vis de Kim Philby ?
Alors, je pense qu'il s'en serait expliqué très facilement, parce c'est d'ailleurs évoqué dans le bouquin, Kim Philby devait en faire autant de son côté. Certainement, je veux dire, il n'y a pas d'illusion à se faire sur le monde de l'espionnage. Hein, je veux dire, toutes ces choses-là qui sont des faits concrets, mais est-ce qu'on peut, je pense qu'on peut croire Yvonne pratiquement sur son lit de mort, je vous assure. Hein. C'est aussi très, très, très dur. Et elle m'a dit ça à la fin. Et quand elle m'avait dit « Toute ma vie a été un secret », je pense qu'elle a gardé aussi bien d'autres secrets. C'est très mystérieux, le rôle qu'a joué Philby, parce qu'il a écrit « Le facteur humain » dans les années 63. Il l'a retiré de la circulation Le manuscrit a été retrouvé, 10 pages du manuscrit du facteur humain, a été retrouvé par Yvonne, par hasard, dans un placard, devant Graham, en 1970. À ce moment-là, bon, Philby était... s'était échappé. Mais en 1963, ça correspond à l'année où Philby s'est échappé, est passé à l'est.
De la fenêtre au 12e étage de l'immense bâtiment gris, Castle voyait l'étoile rouge au-dessus de l'université. Il y avait une certaine beauté dans le panorama, comme dans celui de toute grande ville la nuit. Seule, la lumière du jour était triste et grise. On lui avait clairement signifié, notamment Ivan, qui l'avait accueilli à cette descente d'avion à Prague, puis accompagné au long interrogatoire de rigueur dans un endroit proche d'Irkoutsk, au nom imprononçable, qu'il avait une chance folle d'avoir cet appartement. Deux pièces cuisine, douche particulière. C'était celui d'un camarade récemment décédé, qui avait presque réussi, avant sa mort, à le meubler complètement. Un appartement vide, en règle générale, ne renfermait qu'un radiateur. Tout le reste, y compris le WC, devait être acheté. Ce qui n'était pas facile et gaspillait énormément de temps et d'énergie. Parfois, Castle se demandait si ce n'était pas cela qui avait entraîné la mort du camarade, épuisé par la longue quête qui avait abouti à ce fauteuil en osier vert, ce canapé marron, dur comme une planche et sans coussin, cette table que l'on semblait avoir badigeonnée de sauce jusqu'à ce qu'on eût atteint cette teinte presque uniforme.
Le facteur humain raconte une histoire qui pourrait ressembler à l'histoire de Kim Philby.
À l'histoire de Kim Philby, qui passe à l'Est.
Mais est-ce que ça ne gênait pas Graham Greene d'être ami avec quelqu'un qui est sans doute responsable de la mort d'un certain nombre de personnes?
Alors oui, c'est ça qui me chiffonne, enfin qui me... plus que chiffonnait, je veux dire. Hein, je veux dire
Marie-Françoise Alain.
C'est ça que je trouve incompréhensible chez Graham. Et d'ailleurs, je l'écris dans le bouquin avec Yvonne. Pour Graham, il y avait des loyautés, il y avait des intérêts supérieurs. Et en fait, il y avait ça, d'une part les intérêts supérieurs, et puis il dit que les politiciens aussi font autant de morts que les espions qui envoient des gens à la mort. Pour lui, c'était ça. Il se justifiait comme ça. Bon. Enfin, c'est grossier ce que je dis là, c'est grossièrement ficelé, mais c'est globalement ça. Et d'autre part, il y avait quelque chose chez lui qu'il reconnaissait lui-même, qui disait, il y a un icicle, un glaçon au cœur de chaque écrivain qui lui permet de voir des choses horribles et de supporter la vue de ces choses et d'en parler.
Donc votre livre préféré, vous diriez que c'est Le facteur humain, pour quelle raison?
Pour moi, le thème qui ressort dans ce roman, c'est celui de la désinvolture du pouvoir.
Robert Louis, traducteur des derniers livres de Greene.
C'est-à-dire qu'on a affaire à des personnages dont les vies vont être brisées, laminées, par des décisions prises au sommet, en l'occurrence des services secrets, dans des déjeuners entre chefs des services secrets, qui déplacent les vies comme on déplace des pions sur un échiquier, et qui les détruisent au passage. Greene l'a dit dans plusieurs romans, mais jamais avec autant de force que dans Le facteur humain, je crois.
Pourquoi ça l'intéressait particulièrement, ce thème-là?
Il a été un peu de la partie, hein, lui-même, puisqu'il a travaillé pour les services secrets, a priori pendant la Deuxième Guerre, et selon certains biographes plus récents, comme Michael Sheldon... Il a continué pendant très longtemps et a joué un peu le rôle d'agent double, c'est-à-dire que ses voyages politiques engagés en Amérique latine, en Afrique, etc., lui servaient aussi, selon la version Sheldon, à faire des rapports aux services secrets anglais sur les tendances des nouveaux pouvoirs qui s'installaient.
Oui, mais pourquoi écrire Le facteur humain en dénonçant finalement un système auquel on appartient particulièrement ?
Il y a appartenu, mais enfin, ce n'était pas l'essentiel de sa vie. Greene, c'est 10 vies en une. Hein. C'est un personnage qui a eu une vie formidablement active. Son appartenance au service secret en est un aspect. Ça n'est pas l'aspect dominant. Et puis, tout est dans le titre. C'est le facteur humain, précisément. C'est là-dessus qu'il veut mettre l'accent, sur le facteur humain. À partir de là, les notions de et d'engagement et de trahison prennent un autre aspect.
En 67,
Olivier Todd,
il a dit que s'il avait à choisir entre l'Est et l'Ouest, il choisirait très évidemment le camp communiste. Cela dit, ce genre de sottises, elles ont été proférées aussi par Sartre, pas tout à fait à la même époque, mais c'est dans l'air du temps, ça se faisait. Alors, essayer d'expliquer qu'on allait vers un avenir radieux, mais je pense qu'il était, face au communisme, comme face à Dieu, très désenchanté.
Ist aus der Streu voll.
C'était un diable.
Un diable?
Ben, un diable. C'est bien de rencontrer des diables comme ça, mais ben, pour avoir fait tout ce qu'il a fait, il fallait être un diable. D'ailleurs, il fallait avoir un tempérament incroyable. Toutes ses amitiés, et comme par hasard, il a eu beaucoup d'amis qui étaient eux-mêmes des petits diables.
Cœur de l'armée rouge, chant de la jeunesse, ils sont à Paris en ce moment, première demain au Palais des Sports.
Alors Olivier Todd, on parlait un peu de la manière dont Green ne donnait pas d'interview. En revanche, lui a été journaliste.
Oui, très bon journaliste. Il était très bon quand il a commencé, plutôt comme critique littéraire et cinématographique. Je ne parle pas de l'époque où il faisait du rewriting au Times. Mais je parle des grands reportages qu'il a pu donner à des journaux comme le Sunday Times ou à Life, sans que ses opinions politiques paraissent, parce qu'il est arrivé de faire des papiers, non pas presque pro-américains, mais à la limite. Mais il avait un œil formidable de journaliste, il avait un œil caméra. Hein. Personne, je crois, ne pourrait dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'il n'a pas été un bon journaliste. Il a été complaisant, ça, si. Je me souviens par exemple des portraits qu'il a fait après coup de Castro et de Ho Chi Minh, où alors là vraiment il a avalé des couleuvres qu'il est grand comme des boas, hein, enfin, et il est responsable de la vague Ho Chi Minhienne ou castriste qui dure encore à certains points de vue. Hein. Les étudiants dans le monde entier se sont promenés en criant « Oh, oh, Ho Chi Minh !» comme on met 70. Il s'est fait un peu avoir, à moins que qu'il se soit dit, ben, je vais jouer le jeu, je vais présenter Ho Chi Minh comme un bon vieillard qui fume des cigarettes anglaises, qui a mis Dieu dans la constitution vietnamienne, la première, et Castro, ben, c'est tellement brave type, hein, Castro, comme ça il a été un petit peu violent, un peu totalitaire, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin, non, c'est l'anti-américanisme d'un Américain bien tranquille. C'est Pyle, c'est le nom du héros. Ça veut quand même dire hémorroïde en anglais. Hein. Alors, les noms chez Green sont très très importants. Hein.
Le matin où Pyle arriva sur la place devant le Continental, j'en avais assez de mes confrères de la presse américaine. Ces adultes, infantiles, volumineux et tapageurs, débordant de plaisanteries aigres contre les Français, qui après tout sont ceux qui se battent dans cette guerre. Périodiquement, quand un engagement venait de se terminer, quand tout était en ordre, et le terrain débarrassé des blessés et des morts, ils étaient convoqués à Hanoï après de 4 heures de vol. Écoutaient un discours du commandant en chef et passaient une nuit dans un camp de presse où, prétendait-il, le barman était le meilleur de toute l'Indochine. On leur faisait survoler le champ de la dernière bataille à une hauteur de 1000 mètres, limite de la portée d'une mitrailleuse lourde. Ils étaient ensuite ramenés sains et saufs et débarqués au Continental, aussi bruyants qu'une troupe d'écoliers après un pique-nique.
Qu'est-ce qu'il reprochait aux États-Unis et aux Américains ?
D'être des innocents les mains pleines, et puis de vouloir perpétuer un régime colonialiste, enfin, ce qui n'est pas totalement faux.
Vous parlez de l'innocence du personnage de Pyle, qui est effectivement cet Américain bien tranquille.
Innocent, enfin, parce qu'il est responsable aussi de terrorisme, de contre-terrorisme.
Précisément, c'est un peu ça l'idée de ce roman,
ouais.
C'est que l'innocence est dangereuse.
Oui, dans certains cas, je crois qu'il faut... Mais ça, ça fait partie presque de... Je dirais pas la métaphysique, parce que... D'abord, j'aime pas le mot métaphysique, mais de la vue générale, de la philosophie générale de Green. L'innocent, c'est quelqu'un qui pêche presque malgré lui, sur le plan politique, et qui s'embringue, ce qui a d'ailleurs été le cas de beaucoup d'Américains, qu'ils appartiennent à la CIA ou pas, dans des opérations... extrêmement dangereuse, cruelle, les Américains comme les Français, comme d'ailleurs toutes les puissances coloniales ou néocoloniales, ont massacré à tort et à travers, malgré toutes leurs bonnes intentions. Et c'est surtout ça qu'il reproche à son héros. L'Américain bien tranquille, c'est un livre que nous lisions tous, hein, tous les journalistes qui passaient par le Vietnam, regardaient la deuxième guerre du Vietnam, par rapport à la guerre d'Indochine des Français. Alors on comparait les Américains et les Français. Et c'est vrai qu'il y a des personnages comme Pyle, j'en ai croisé, moi, des membres de la CIA ou des services d'aide économique qui étaient pleins de bonnes intentions, D'ailleurs, l'innocence pleine de bonnes intentions des Américains, il n'y a pas qu'eux qui avaient cette innocence. On la retrouve aujourd'hui encore, hein, en Irak, ils sont pleins de bonnes intentions.
Ce qu'ils dénoncent, c'est cette certitude d'avoir raison, ouais, mais avec une espèce de candeur un peu désarmante. C'est-à-dire que finalement, les Américains tuent, mais avec la certitude que c'est pour le bien de la planète. C'est un peu
cette
idée. Oui,
puis qu'il y a un prix à payer. Finalement, tout s'arrangera. On exportera, on plaquera la démocratie occidentale sur des pays en voie de développement. Et ça donne des résultats fâcheux.
Mais je vois que vous avez plein de papiers qui concernent la CIA et que vous avez des...
Oui, mais bon, ça, j'ai essayé de remettre un peu d'ordre dans mes notes. Mes notes, mais j'en ai encore plein, des documents, mais ils sont là-bas, par là, en désordre. Donc j'ai sorti quelques éléments, mais pour essayer de faire le lien entre ce que je pense être la modernité de Graham Greene. Et parce que j'aimerais bien lui trouver des torts. Il en a, bien sûr. Mais j'ai remarqué quand même que par rapport au Panama, par exemple, tout ce qu'il m'avait dit dans les années en 79... oui, vous voyez, le 25-4-89, c'était avant l'invasion du Panama. Pourquoi j'ai coupé ça? Moi, j'ai retrouvé ça par hasard. Mais parce que Graham m'avait alerté. Sinon, je n'aurais pas découpé ça spécialement.
Parce que ça, c'est des papiers de l'époque où vous le voyez.
Oui, oui, oui. Enfin, 89, je ne le voyais pas beaucoup, mais...
Et là, qu'est-ce que c'est, ça?
Ben, ça? Sur sa modernité, je m'étais dit, tiens, c'est vrai que ça, je trouve ça. Et je me dis, tiens, mais c'est vrai que...
Sur sa préscience.
Sur sa préscience, oui. Sa préscience, mais qui n'est pas une préscience. Je le comprends mieux maintenant. Parce que depuis, j'ai travaillé moi-même, hein, j'ai grandi. C'est que je comprends mieux que c'est pas, comme il le dit d'ailleurs, c'est pas de la préscience. C'est une connaissance du terrain.
Mais là où c'est assez flagrant, Marie-Françoise Alain, c'est par exemple dans ce roman, qui est plutôt un roman de divertissement, qui s'appelle Notre agent à la Havane,
oui,
où alors là, on a le sentiment qu'il a anticipé la crise des missiles.
Alors oui, en fait, on a tout à fait cette impression. Moi, je dis, tiens, c'est un exemple de clairvoyance extraordinaire. Il dessine, ça intervient 2 ou 3 ans avant, je ne sais plus les dates, mais donc...
Pour raconter l'histoire,
C'est l'histoire d'un agent qui sert les services secrets anglais, qui est à Cuba et qui essaye de faire de l'argent. Et pour intéresser les services secrets anglais, il a eu l'idée géniale de prendre le plan de son aspirateur. Hein, il passe l'aspirateur, il voit un aspirateur qui ressemble à une tête de fusée. Donc il copie le mécanisme de son aspirateur et il envoie au service secret anglais qui plonge, évidemment, etc. Mais il m'avait expliqué qu'au départ, il voulait se moquer des services secrets anglais. Il voulait placer l'action quelque part dans les pays de l'Est. Donc en fait, il a peut-être replacer l'action à Cuba parce qu'il pressentait une crise, effectivement, parce qu'il me dit mes fidèles étaient déjà là dans les montagnes, parce qu'il allait tout le temps à Cuba.
On n'a pas parlé du troisième homme, mon livre préféré. Oh là là! J'ai beaucoup aimé, j'aime toujours le troisième homme quand Harry Lime, l'abominable qui vend de la pénicilline frelatée, se trouve avec son ami innocent, un Américain innocent encore, et il lui dit, écoute, mon vieux, regarde, l'Italie, la Renaissance, les Borgia,
les meurtres. On vous tuait pour un rien, mais ils ont produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. Tandis qu'en Suisse, ils ont pratiqué la fraternité. Ils ont connu durant 500 ans la démocratie et la paix, et ils ont produit une pendulette qui fait coucou. Au revoir, Johnny.
Graham Greene. Ça, c'est une histoire formidable. Et François Truffaut ne savait pas. Graham Greene avait une telle admiration pour François Truffaut.
Nathalie Baye.
Il était à côté de Nice et il a demandé s'il pouvait faire de la figuration. Donc, Suzanne Schiffman a été au courant et a dit, bon, mais on va essayer de lui faire de la figuration, mais il ne faut pas que Truffaut le sache parce que ça va le déstabiliser. Et donc, il a fait cette figuration.
No, it's impossible. I'm sorry, it's impossible. I've been speaking for a whole hour to London, to the insurance company. You can't redo the scene with Alexandre with another actor. I'm sorry, you'll have to find another solution.
Et François n'a pas vraiment réalisé, et après on lui a dit, et après il dit, mais oui, sa tête me disait, il était... C'est drôle comme...
Joue le rôle de l'assureur.
Voilà. Il a fait ça très sérieusement.
Alors, il faut simplifier. Bon, il y a les plans qu'Alexandre devait faire dans la séquence de développement.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il écrivait caméra au point, d'une part, et effectivement, il suivait ses personnages dans leurs mouvements. Il explique ça, il donne des détails sur le point de vue, il dit qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul point de vue, que ce soit toujours le même personnage qui ait le même point de vue, sinon l'action s'en trouve gênée, on ne comprend plus rien, etc. Donc ça, il était très, très orthodoxe sur la question du point de vue. Mais il a innové, je pense, avec l'histoire de la caméra au point, ce qui fait qu'effectivement... Moi, je trouve qu'on visualise très bien, alors qu'il ne donne pas de détails sur beaucoup de détails, disons, sur les caractéristiques des personnages. Il visualisait tellement ces personnages, il les suivait tellement dans la pièce, ils étaient vivants, il les suivait des yeux. Il en avait mal aux yeux, tellement il les regardait. Alors après, il disait, mais c'est même pas la peine que je dise qu'il a fait ça, ou qu'il est comme ceci, ou qu'il est comme cela, puisque en fait... Il a bougé dans la pièce et il a bougé, c'est tout. Je suis pas obligée de l'écrire. Vous voyez ? Donc, du coup, il en ressort un style qui est quand même simplifié, en fait, d'une certaine façon. Il y a des livres qui sont un peu plus compliqués parce qu'il était sous l'influence de Joseph Conrad, qui était encombré d'adjectifs, etc., etc. Mais globalement, c'est très sobre.
En fait, il a écrit pendant tellement longtemps, déjà aussi, qu'il faut faire bien attention que pendant la période qui a presque 60 ans d'écriture, il a vécu très longtemps.
François Galix.
Donc, son écriture s'est profondément modifiée. Au départ, elle était plus expérimentaliste, justement. Et par exemple, son contemporain, avec qui il a eu d'ailleurs des querelles assez importantes, Anthony Burgess. Anthony Burgess, son idée était qu'au départ, justement, Green était parti pour devenir un très très grand romancier. Et alors, méchanceté de Burgess, volontairement, Green aurait décidé d'être, dans le fond, un auteur grand public. Ça, c'est très méchant, en particulier parce que, d'abord... Green a beaucoup aidé Burgess à ses débuts, et puis parce que Burgess est beaucoup inspiré de Green, en particulier pour le roman qu'on connaît le plus, Clockwork Orange, donc Orange Mécanique, dans lequel le personnage d'Alec a beaucoup hérité du personnage de Pinky de Rochette Brighton.
Un écrivain doit avoir un bloc de glace à la place du cœur. Citation de Graham Greene, dont le cœur a cessé de battre ce matin. Graham Greene, le Mauriac anglais, le plus célèbre des écrivains britanniques, a succombé à un cancer à l'âge de 86 ans. Il laisse derrière lui une vie peuplée de best-sellers et de provocations.
Alors Robert Louis, est-ce que vous savez si Graham Greene, ça continue de se vendre aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on continue de le lire beaucoup ?
Aujourd'hui, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire qu'il traverse un peu une espèce de purgatoire. Pas très très lourd, son nom reste connu. Mais disons, moi j'ai traduit ses 6 derniers livres parus de son vivant. Et en voyant les chiffres de vente, c'est un auteur qui se vendait en France, mais moins que je l'aurais cru. Et sans doute moins qu'à l'époque où il a écrit La puissance et la gloire ou des romans comme ça. Pendant très longtemps, les littératures étrangères en France avaient tendance à s'incarner dans un auteur. Comme disons Günter Grass, c'était la littérature allemande moderne. Et puis les autres étaient peu connus. Cette situation a totalement changé. Maintenant, on peut dire que les éditeurs français sont très actifs, vont à la recherche des littératures étrangères les plus diverses. Ce n'était pas la situation à l'époque. Alors il a donc représenté, incarné la littérature anglaise pendant toute une période. Et donc il se vendait énormément. Par la suite, il a gardé des lecteurs très fidèles, assez nombreux, mais moins sans doute qu'on ne pourrait le croire. Aujourd'hui, je pense qu'il attend peut-être qu'on ranime un peu la flamme. Oui.
Marie-Françoise Alain, vous, votre vie s'est retrouvée liée assez fortement à celle de Graham Greene par le biais de votre père.
Graham Greene avait rencontré mon père et ma mère en 1959, en septembre 59, par l'intermédiaire d'Yvonne, donc, qu'il venait de rencontrer au Cameroun. Et tout de suite, il y a eu un choc d'amitié entre Graham Greene et mon père. Ça a été extraordinaire.
Votre père était agent secret ?
Oui, c'est dur à dire comme ça, mais oui, tout à fait, oui. Mais je l'ai toujours su. Même étant petite, j'ai toujours su que mon père était agent secret.
Et c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés tous les deux ?
Non. Je pense que c'est le hasard de la vie. Le hasard, le fait que Yvonne, qui était sa compagne, donc sa maîtresse, disons, était une amie de lycée de ma mère. Et à partir de là, il y a eu des contacts. Ils se sont vus plusieurs fois, etc. Et puis, ils faisaient des blagues ensemble. Enfin, Graham, qu'on voit sérieux, il était capable de s'amuser de façon complètement délirante. Hein. Mon père aussi, d'ailleurs. Mais malheureusement, donc, mon père a été assassiné en 1966 au Maroc. Et en théorie, il avait quitté les services secrets et avait été nommé à New York en 1962. Et bon, quand il a été assassiné en 66, c'est toujours non élucidé. Hein, c'est un an après l'affaire Ben Barka. Il venait de prendre son poste à Rabat et ça a été quelque chose, une histoire terrible. Non seulement à cause de l'assassinat, mais à cause d'une disparition. On nous a fait croire pendant 15 jours qu'il avait disparu alors que tout le monde, les autorités savaient qu'il était à la morgue de Kenitra. Je n'ai pas peut-être le droit d'en dire plus. Mais parce que j'ai pas envie trop d'en parler, mais la seule personne qui a eu le courage de faire quoi que ce soit à l'époque, c'était Graham. Ça a été Graham. Et on était très très harcelés, mais suivis, surveillés, interrogés. Et Graham a fait paraître cette lettre dans le Times et il nous a aidés. Il s'est manifesté, si vous voulez.
Vous savez peut-être qu'il y a eu un double, Green a eu un double, qui s'est fait passer pour lui pendant très longtemps, pendant des années, qui descendait dans les hôtels où il signait Graham Greene et où il posait à l'écrivain. Et cette imposture, d'ailleurs, autre thème greenien, a plutôt amusé et fasciné Graham Greene, qui n'a pas tellement protesté contre... qui avait des échos de temps en temps de Graham Greene aperçu à tel ou tel endroit, et c'était pas du tout lui, c'était le double en question.
Il est grand, le mystère de Graham Greene. C'était une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Gilles Davidas, prise de son Pierre Comon, mixage Marie Le Peintre, texte lu par Didier Doué et Sophie Bourrel.
Le hasard veut que ces jours-ci, il y a une chose qui se débloque. Est-ce que je croirais ce que je vais apprendre ? J'en sais rien. Mais si ce que j'apprends coïncide avec ce que Graham Greene m'a dit, alors là, oui, je saurais le rôle essentiel que Greene a pu jouer dans le monde de l'espionnage.
Voilà, comme d'habitude, notre émission est rediffusée sur le site internet de France Culture. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous y retrouver. Et puis rendez-vous demain pour un dernier auteur de polar. Il s'agira de San Antonio. Très bonne fin d'après-midi à tous.